Qui est parent dans cette salle ? Ah, il y en a pas mal quand même. Lorsqu'on est père, lorsqu'on est mère, on surveille avec attention le développement de son enfant, le développement de ses enfants, le développement physique, le développement intellectuel, le développement psychique. On l'emmène régulièrement chez le pédiatre ou chez le médecin qui va le peser, le mesurer pour voir si la courbe de poids, la courbe de croissance est dans la norme. On va surveiller si les apprentissages se font au bon moment. Ce n'est pas rien d'élever un enfant. Vous qui en avez, vous êtes d'accord avec moi. C'est quelque chose de difficile et c'est une sacrée responsabilité. Et en plus des visites chez le médecin, il existe des ouvrages. Alors, je vous ai amené celui que j'avais chez moi. Il date de 2016. C'est l'année de naissance de ma dernière. En plus des visites chez le médecin, on a des ouvrages comme ça qui vont nous permettre de surveiller, d'accompagner, de contribuer au développement de notre enfant. Et voici qui donne des repères, des conseils sur l'alimentation, sur l'hygiène. Et puis on peut voir que de un jour à un mois, c'est les premiers liens, de 1 à 4 mois, les premiers sourires, 8 à 12 mois, couché, assis, bientôt debout, 12 à 18 mois, il marche, 2 ans et demi, l'explosion du langage, etc., etc. Celui-ci s'arrête à 3 ans et demi, après vient le complexe d'Œdipe, l'adolescence, etc., etc. Et le but de tout parent, c'est d'élever son enfant afin qu'il devienne un adulte. Un adulte indépendant, un adulte autonome, un adulte intelligent, équilibré, qui va pouvoir prendre place dans la société humaine à laquelle nous appartenons tous. Et il va contribuer au maintien de cette société, à son développement, en y travaillant, en créant, en construisant des choses. Et pourquoi pas en fondant une famille à son tour. Nous qui avons des enfants, nous avons été enfants à un moment ou à un autre. Mais voilà qu'il y a parfois des problèmes, des retards, des difficultés. Et certains ne deviennent jamais vraiment adultes. Alors, ils vont grandir, ils vont prendre du poids, de la taille, ils vont prendre des cheveux blancs, mais ils ne vont jamais devenir réellement adultes. Et au lieu de devenir un moteur pour la société, certains vont même devenir des poids, des freins à celle-ci. On peut refuser de grandir. On peut refuser de grandir. Et c'est tellement vrai qu'il y a une nouvelle catégorie de personnes qui est apparue, enfin, je ne sais pas si elle est apparue, mais en tout cas, elle a été nommée, elle a été isolée. Ce sont les adolescents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des adolescents. C'est une contraction d'adultes et d'adolescents. Et voici que ces personnes refusent de grandir. Ils sont dans une espèce d'adolescence perpétuelle qui consiste à renoncer à être adulte. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je ne vais pas vous donner une leçon ce matin comment élever vos enfants. Pour la croissance spirituelle, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas intitulé « J'élève mon enfant », c'est intitulé « La Bible ». C'est la parole de Dieu. Et si la nouvelle naissance marque le début de l'enfance spirituelle, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est le début de l'enfance spirituelle. C'est le début. On ne peut, on ne doit pas en rester là. Il n'est pas normal d'être un adolescent à 30 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas normal non plus d'être un enfant spirituel à 10 ans de conversion, ou à 20 ans de conversion, ou je ne sais pas à quel âge passer la limite. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes matures. La Bible regorge d'instructions, de conseils pour accéder à cette maturité, pour grandir, pour croître. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Amen. Je ne sais pas depuis combien de temps vous venez à l'église. Moi, ça fait longtemps déjà. Et j'ai reçu un enseignement solide, conforme à la parole de Dieu. Les hommes qui sont montés sur cette estrade, ici, rue d'Abon, m'ont apporté la parole de Dieu avec fidélité, avec vérité. J'ai reçu tout ce qu'il me faut pour me nourrir, pour croître, pour grandir, participer activement à la construction de l'Église, les tâches du service. Un service spirituel est exigé de chaque chrétien. C'est quelque chose d'indispensable. Il l'a fait pour former les saints. Qui c'est les saints ? C'est nous. Non pas que nous soyons parfaits, mais l'Esprit Saint habite en nous et il nous sanctifie, il nous fait progresser, il nous fait ressembler de plus en plus à notre modèle. Le Christ se développe en nous de plus en plus. Voilà pourquoi nous sommes appelés saints. En vue de l'édification du corps de Christ, la maturité de l'adulte. Un adulte mature, comme quoi on peut être adulte et pas mature, hein. C'est précisé. Un chrétien mature va participer au développement, à l'édification du corps de Christ, à l'édification de l'Église, à l'alimentation. Oh, nourrissage, ça ne se dit pas, c'est pour les animaux, je crois. À l'alimentation de l'Église sur le plan spirituel. 1 Corinthiens 15, 58, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Il y a progression, il y a croissance, il y a changement de stature. La responsabilité de l'Église, c'est de faire des disciples parmi toutes les nations. La responsabilité de l'Église, c'est d'annoncer le salut en Jésus-Christ, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et passer ainsi de la mort à la vie. Ce passage, il parle d'unité, de travail en commun. Nous parvenions tous à l'unité de la foi. C'est un travail collectif auquel chacun doit travailler, auquel chacun doit apporter sa contribution. Dans un groupe, s'il n'y en a que trois qui font une chose, ça va avancer beaucoup moins vite que si la totalité du groupe y participe. Ça va être beaucoup moins efficace. Ça va être beaucoup plus lourd. Nous devons parvenir à la maturité de l'adulte. Je l'ai dit tout à l'heure, la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui sont matures et qui, par leur vie, par leur témoignage, par ce qu'ils ont accompli pour l'œuvre de Christ, pour Dieu, sont des exemples pour nous. Et ces hommes et ces femmes ont tous bien terminé. Il est aussi des exemples d'immaturité. Et ceux-là ont beaucoup moins fini. Et dans tous les cas, le texte que nous avons lu nous donne comme exemple, qui nous donne comme exemple ? La stature parfaite de Jésus. La stature parfaite de Christ. Je ne veux pas vous décevoir, mais tant que nous serons ici-bas, nous n'y parviendrons pas à atteindre la stature parfaite de Christ. Mais néanmoins, nous devons atteindre la maturité d'adulte et travailler avec l'aide du Saint-Esprit, tendre vers la maturité parfaite de Christ. La question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, c'est où en est mon développement spirituel ? Suis-je mature ? Posez-vous la question, que chacun se la pose pour lui-même. Suis-je mature ? Est-ce que je mets au service de Dieu les capacités qu'il m'a données ? Parce que vous avez des capacités, vous avez des talents. Est-ce que je les mets au service de Dieu ? Est-ce que je les ai développées, ces capacités, ces talents ? Est-ce que j'en ai acquis d'autres ? Ou alors, suis-je resté bloqué à une phase de mon développement, refusant de grandir, refusant de prendre des responsabilités, refusant d'aller plus loin ? Suis-je un adolescent ? Suis-je un adolescent ? Ou suis-je comme un adolescent qui va préférer continuer à s'amuser ? Qui va préférer, c'est compréhensible, hein, ces jeunes qui ne veulent pas entrer pleinement dans la vie adulte, qui va préférer à faire ce qui lui plaît, à faire ce qu'il a envie, à faire selon sa volonté. Pour le perfectionnement des saints, moi sur ma traduction, je vous ai lu pour la formation des saints, Louis II, lui, a traduit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, le perfectionnement. La croissance, le développement spirituel, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, d'accessoire. C'est quelque chose d'utile et d'absolument indispensable. Alors un retard de croissance, un arrêt de croissance, c'est quelque chose de pathologique. C'est quelque chose de pathologique. Mais Dieu est bon. Et avec son aide et notre volonté, si nous le lui permettons, ce n'est pas définitif. On peut s'être arrêté un moment et reprendre la croissance, et reprendre la route, reprendre le chemin. Le plein développement, la maturité, voilà ce que nous devons atteindre. Faisons une deuxième lecture, s'il vous plaît. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 11. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les Hébreux étaient devenus lents à comprendre. Ils étaient devenus, nous dit le texte, c'est que cela n'avait pas toujours été le cas. Un arrêt de croissance, ce n'est pas définitif, ce n'est pas irréversible. Les Hébreux étaient devenus lents à comprendre. On ne sait pas qui a rédigé l'Épître aux Hébreux. Mais celui qui leur écrit, il est conscient et il leur dit qu'ils auraient pu être plus matures, qu'ils auraient dû être plus matures qu'ils ne l'étaient. Il les connaissait, hein. Pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec. Et si on peut, si on se croise le dimanche matin comme ça, bonjour, au revoir, on ne se connaît pas. On se connaît de vue, mais pas plus. Pour connaître quelqu'un, il faut faire des choses avec lui. Et si vous vivez avec la personne, alors vous allez la connaître. Parce que vous allez voir ses réactions, parce que vous allez voir ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ses qualités, ses défauts. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien, il connaissait les Hébreux. Et puis inspiré par le Saint-Esprit, ce qu'il leur dit, c'est une réalité. Ce n'est pas une invention de sa part. Il y a retard dans leur développement spirituel parce que leur connaissance de Dieu, leur connaissance de sa parole n'est pas appliquée. N'est pas appliquée. Ne pas savoir, ne pas avoir saisi des vérités bibliques, c'est une chose. Mais les connaître, les avoir entendus et ne pas les appliquer, c'est vraiment dommage. Et c'est là où il y a retard de croissance. C'est là où il y a problème. On ne peut pas demander à un enfant de 2 mois qui n'a pas encore des dents, de manger un beefsteak. Ça, ce n'est pas possible. Mais les Hébreux avaient des dents. Les Hébreux avaient ce qu'il fallait pour avoir de la nourriture solide. Et ils... Non. Non. Ils n'en voulaient pas. Vous devriez avec le temps être des enseignants. Vous devriez avec le temps être des enseignants. C'est le temps grec, chronos, le temps qui passe, le temps en général. C'est-à-dire, vous devriez depuis longtemps être des enseignants. Combien de temps s'est écoulé depuis notre conversion? Combien de prédications, d'enseignements avons-nous entendu? Combien de lectures bibliques avons-nous faites? Combien de fois est-ce que j'ai lu ma Bible? Un jour, je me suis amusé à calculer le nombre de prédications que j'avais entendues depuis ma naissance. Et c'est, je sais pas, j'étais arrivé à 8000, je crois. Le chiffre est absolument hallucinant. Mais j'ai pas tout appliqué de ce que j'ai entendu. Je suis pas au niveau auquel je devrais être. Avec tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu que j'ai entendu m'apporter la parole de Dieu, décortiquer pour moi les enseignements bibliques, mais je devrais être bien plus adulte que je ne le suis. Vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Les Hébreux sont comparés à des petits-enfants. C'est pas facile à entendre, ça, quand même. Hein. Ils sont comparés à des petits-enfants. Si vous receviez une telle lettre, vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous la déchireriez au feu tout de suite. Vous vous fâcheriez? Mais il n'a rien compris, il ne me connaît pas. Vous n'en feriez aucun cas. Ah oui, d'accord. Ou au contraire, est-ce que, avec humilité et vérité, vous vous examineriez pour savoir où vous en êtes, si vous en êtes au lait ou à la nourriture solide, pour savoir où vous en êtes de votre développement spirituel? La parole de Dieu est indispensable. Elle est salutaire. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et elle ne doit pas être méprisée. Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Apocalypse 3:19. Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. C'est parce que j'aime mes enfants que je les éduque, que je les instruis, parce que je veux qu'ils réussissent dans la vie, parce que je veux qu'ils soient sauvés, que je les enseigne, que je prends soin d'eux. Dieu, c'est notre Père. Nous sommes ses enfants et c'est une grâce infinie, infinie qu'il nous a faite de nous prendre comme ses enfants. Le temps qui passe doit faire de nous des chrétiens matures. Et il y a un autre temps qui contribue à notre maturité. Il y a un autre temps qui nous fait grandir. 2 Timothée 3:1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. En grec, ce n'est pas la même traduction, ce temps-là, que le temps de tout à l'heure. C'est le temps kairos. Ce mot grec, il est utilisé pour parler du temps limité, une portion de temps. Un moment opportun. Oh, les temps difficiles, c'est un moment opportun. 1 Pierre 1:6-9. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé. Pour un peu de temps. Le temps de l'épreuve, puisqu'il le faut, ça, ce n'est pas un temps qu'on aime, ce n'est pas un temps qui est facile. Mais puisqu'il le faut, ça aussi, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Mais Dieu nous aime, Dieu est bon, et il s'agit d'un temps limité. Il est même précisé ici, un peu, oligos, un peu, un court temps, un court temps. Le temps de l'épreuve comme facteur de croissance. Le temps qui passe, le temps de l'épreuve. On va encore faire une lecture ensemble, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » L'épreuve, les problèmes. Nos problèmes peuvent avoir plusieurs origines. Le péché originel, qui nous fait vivre dans un monde plein de maladies et de catastrophes. Notre péché personnel, notre désobéissance, nos mauvais choix. Ou alors, la mise à l'épreuve. Un temps permis par Dieu. Dans tous les cas cités, le secours vient de Dieu. N'allez pas le chercher ailleurs. Que vous soyez responsable ou non de la situation dans laquelle vous êtes, le secours vient de Dieu. Si vous avez besoin d'aide et de secours, c'est à lui qu'il faut regarder. Et c'est à lui qu'il faut faire appel. Cantique de David, psaume 54, verset 6. Mais Dieu est mon secours. Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. L'épreuve, passer au crible, faire passer par des petits trous, passer au tamis, un moyen d'épuration, de tri, de sélection. Il n'y a que le blé qui doit être gardé. Il n'y a que le blé qui est utile à faire de la farine. Les impuretés, l'enveloppe du blé, tout ça, ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui doit disparaître, c'est quelque chose qui doit être éliminé. Alors, ce n'est pas dit directement dans le texte que nous avons lu, mais Dieu a autorisé Satan à tester les disciples. Comme il avait autorisé Satan à éprouver Job. On n'a pas le temps de lire les textes, mais vous relirez dans le livre de Job, Dieu a autorisé Satan à toucher Job dans toutes ses possessions. Et puisque ça n'a pas suffi à lui faire renier Dieu, Satan est encore allé réclamer le droit de le toucher dans son corps et dans sa santé. Et c'est Dieu qui a autorisé et qui a fixé les limites de l'épreuve de Job. Le but de Satan, c'est de nous détruire. C'est de nous détruire, c'est de nous faire perdre la foi afin que nous allions passer l'éternité avec lui, avec Satan. Le but de Satan, c'est de nous faire renier Dieu. Ce n'est pas le hasard qui dirige notre vie. Vous êtes chrétien, Dieu est votre Père. Alors ce n'est pas le hasard qui dirige votre vie. Vous êtes chrétien, Dieu est votre Père. Mais Satan ne fait pas ce qu'il veut avec vous. Satan ne fait pas ce qu'il veut avec vous. C'est Dieu qui décide. On l'a chanté tout à l'heure, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon Père, celui qui dirige ma vie, c'est Dieu Tout-Puissant. Matthieu 19, 26, à Dieu tout est possible. Psaume 115, 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Jésus n'a pas prié pour que l'épreuve soit évitée à Pierre. Elle était donc indispensable. Il a prié pour que sa foi ne disparaisse pas. Il a prié pour que sa foi ne disparaisse pas. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul, ses dernières paroles ? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. En faisant court et simple, le but de notre vie chrétienne, c'est quoi ? C'est de passer l'éternité avec Dieu. Amen. C'est de passer l'éternité avec Dieu. C'est de pouvoir dire comme Paul, ça y est, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, je vais entrer maintenant dans l'éternité avec Dieu. Paul a gardé la foi. Si nous perdons la foi, nous sommes perdus. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Jésus, il a prié pour que Pierre garde la foi, afin qu'il supporte l'épreuve, qu'il survive, mais qu'il en tire profit pour se fortifier lui et les autres. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères, les autres disciples. Pierre a échoué dans un premier temps. Il a renié Jésus, nous le savons. Mais sa foi est demeurée. Sa foi est demeurée. Et il est devenu un responsable de l'Église reconnue. Il est même allé jusqu'à mourir pour son Seigneur. Alors que lorsqu'il parle avec Jésus, là, il va dire « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Lorsqu'il le dit là, il en est absolument incapable, puisqu'il va le renier. Mais pour finir, il va mourir pour son Seigneur. Quel progrès, quelle croissance spirituelle. Je termine avec un dernier texte, lisez-le avec moi s'il vous plaît. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le temps qui passe et le temps de l'épreuve doivent faire de nous des chrétiens matures, des chrétiens utiles, la stature parfaite de Christ. Christ, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix ? Tout est accompli. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais qu'on puisse dire à la fin de notre vie, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Qu'on puisse dire, pas tout est accompli comme Jésus, mais j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai fait tout ce que je devais faire. La stature parfaite de Christ. Nous devons être des chrétiens matures, frères et sœurs, des chrétiens utiles, utiles à notre Église, utiles à l'œuvre de Dieu, utiles au salut des hommes et des femmes qui se perdent. On prie, s'il vous plaît. On se lève tous ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ton enseignement. Et ma prière ce matin, c'est que si quelqu'un, en s'examinant avec humilité et vérité, a conscience qu'il a arrêté de grandir, je te prie, mon Dieu, que cet homme, que cette femme prenne la décision ce matin qu'il veuille, qu'elle veuille reprendre la course, reprendre la croissance, et tu vas l'aider. Tu vas lui donner l'assistance de ton Saint-Esprit. Tu vas la remplir de ton Saint-Esprit. Il suffit que tu veuilles ce matin. Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux que Dieu t'aide ? Est-ce que tu veux que Dieu permette que tu mettes en application, en action, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as appris, que ça ne reste pas de la théorie, mais que ça devienne de la pratique ? Si tu le veux, alors dis-le à ton Dieu. Dis-le. Et son Saint-Esprit va venir t'en donner la force, t'en donner la capacité, t'en donner les moyens. Toi, tu as juste à en avoir la volonté de dire oui, je prends conscience de cela. Oui, je veux reprendre la route, reprendre la croissance. Tu es dans l'épreuve ce matin. Tu es dans l'épreuve. Jésus prie pour toi. Il est à la droite du Dieu et il intercède pour toi. Le moment par lequel tu passes, il est voulu et maîtrisé de Dieu. Son début et sa fin ont été fixés par Dieu. Tu es dans l'épreuve, garde la foi. Garde la foi. Accroche-toi à ce que tu sais de Dieu. Accroche-toi à l'espérance qu'il a mis dans ton cœur. Accroche-toi à l'assurance qu'il t'aime, qu'il s'occupe de tes affaires, qu'il va revenir te chercher. Garde la foi, sinon tu es perdu.